Nous allons ce matin porter nos regards sur les versets 10, 11 et 12 du chapitre 1er de Pierre. Nous nous sommes entretenus au cours des semaines écoulées du salut qui a été mis en œuvre pour les lecteurs de l'apôtre Pierre. Et nous avons pu nous rendre compte de la valeur, de la qualité et de la proximité de ce salut. Il n'est pas quelque chose que l'on salue de loin. Le salut est quelque chose que l'on voit de près, dans lequel on entre et dans lequel on est appelé à évoluer. Voici donc la lecture de ces quelques versets. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Le salut, nous l'avons vu, est le but de la génération nouvelle, celle que Dieu produit dans la vie de l'homme, de la femme qui se repent et qui accepte la grâce divine. Nous avons constaté que ce salut, cette grâce dépasse largement notre capacité de perception. Et cependant, nous avons aussi pu préhender que les destinataires de cette lettre et par voie de conséquence, tous ceux qui leur ressemblent, peuvent capter une bonne partie de ce salut au point de le vivre et de le vivre dans des circonstances pas toujours faciles. Effectivement, nous avons pu le constater déjà dans la lecture générale de la lettre, globale de la lettre, comme nous avons pu le constater dans les premiers versets de ce chapitre 1, le salut a été suffisamment bien perçu par ces hommes et ces femmes qu'il était amplement suffisant pour les motiver et pour les réjouir, malgré et au travers des vicissitudes liées à leur condition de disciples. La joie du salut était plus grande que les souffrances qui leur étaient imposées. Encore donc fallait-il qu'ils arrivent à le percevoir. Mais c'était un fait, comme ce fait est accessible aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Nous allons, avec les quelques versets que nous venons de lire, nous allons peut-être essayer de prendre conscience d'une dimension nouvelle, peut-être un peu inhabituelle, de ce salut qui ajoute encore à ce que nous avons entrevu et qui nous permet d'être un peu plus émerveillés peut-être par l'œuvre de Dieu. Car le salut proposé aux hommes, le salut qui nous est proposé, le salut dans lequel nous sommes entrés si nous avons été générés de nouveau, régénérés, ce salut-là est l'objet du désir, a été l'objet du désir et l'est encore. Il a été l'objet du désir pour les prophètes. Nous sommes peut-être surpris car effectivement, nous nous rendons compte avec ce texte qui est unique dans le Nouveau Testament, que, si j'ose les appeler ainsi, les princes de la révélation biblique, les prophètes, tous ceux qui ont eu part à la transmission du message de la révélation biblique, ceux-là se sont inquiétés de ce que pouvait être ce salut. Ils se sont inquiétés de ce que pouvait être le projet de Dieu. Ceux-là ont voulu connaître le salut en question. Et ils s'y sont penchés, ils se sont penchés sur lui, nous en parlerons encore tout à l'heure. Mais ce salut, non seulement a été l'objet d'un désir de plus grande connaissance de la part de ceux qui ont été appelés à l'annoncer par anticipation, car c'est là une des fonctions prophétiques. Nous savons, vous savez que le prophète peut avoir deux fonctions. L'une, c'est de parler de la part d'eux. En faisant cela, il encourage, il exhorte, il console. Il peut être aussi celui qui parle pour annoncer quelque chose. Donc il ne parle pas tout à fait de la part d'eux, mais il parle avant que la chose n'arrive. Et c'est dans le sens de la prédiction alors que ces paroles sont perçues. C'est dans ce sens-là que la prophétie est ici envisagée dans 1 Pierre. Le salut a donc été l'objet de l'investigation de ces hommes, mais le salut est l'objet du désir des anges. Nous sommes assez surpris par une telle révélation, une telle affirmation qui est unique dans le Nouveau Testament. En tout cas, pour ce qui est des prophètes, nous avons affaire à un groupe de chercheurs, à des hommes et des femmes qui se sont penchés sur cela. J'ai ajouté des femmes parce qu'il y a eu des prophétesses dans le texte biblique. L'apôtre développe essentiellement ce premier point. Je vais aussi m'y conformer pour ne faire, comme lui, qu'une brève allusion au deuxième point. J'ai résumé en deux mots le ministère prophétique. Je voudrais maintenant aller un peu plus loin. Le texte, encore une fois, surprend, car il parle des prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et parlant de ces hommes et de ces femmes du passé, d'un passé parfois très lointain par rapport à lui, Pierre n'hésite pas à dire qu'ils étaient animés par l'Esprit de Christ. Parole surprenante? Oui, car généralement, dans l'Ancien Testament, Christ n'est pas nommé. Il est question de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Yahweh ou de l'Éternel dans nos traductions, de l'Esprit Saint, mais point de l'Esprit de Christ. Et dans le Nouveau Testament, il y a très peu d'utilisation de cette expression. Pierre vient ici affirmer la préexistence de Christ et sa divinité, puisque l'Esprit de Dieu n'est autre que l'Esprit de Christ et vice-versa, lui-même étant à l'origine de toute chose, peut à juste titre être inclus dans cette expression l'Esprit de Christ. Elle est une formulation, à mon avis, synonyme de celle que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Il est dit de l'action de cet esprit du Christ qui était en eux, qu'il leur faisait connaître. Cela n'apparaît pas dans notre version, second. Il est dit dans la version second qu'ils étaient marqués, dans les circonstances marquées. La Tope traduira plus justement selon les indications données par le Saint-Esprit. Et la traduction littérale, c'est que l'Esprit du Christ leur faisait connaître. C'est le sens. Leur faisait connaître avec un verbe qui, au figuré, signifie montrer, manifester, faire savoir, donner une explication. Il implique la volonté de communiquer un savoir, de communiquer une connaissance. Et l'esprit du Christ qui animait ses frères, ses prophètes, avait la volonté de leur faire découvrir quelque chose, de leur faire apprendre. Ainsi, l'emploi même du temps est important car le verbe est conjugué à l'imparfait. L'imparfait note encore une fois le caractère permanent d'une action, le caractère qui se prolonge, d'une action qui se prolonge. Donc cet esprit agissait à travers les âges, car il n'y a ici aucune limite. Ce sont les prophètes de façon générale. Donc à travers les âges, cet esprit agissait de manière à indiquer, à faire connaître ce qui allait s'accomplir en relation avec le salut, puisque c'est ce salut qui a été l'objet de leur investigation et qui a été l'objet de la démarche de l'Esprit de Christ instruisant les prophètes de ce qu'était l'intention de Dieu. Quelle est donc la révélation communiquée à ces prophètes? Le texte nous le montre et accompagne cette révélation par l'emploi d'un acte important, avec l'utilisation d'un mot qui est encore une fois ici unique dans toute la Bible. C'est seulement Pierre qui utilise le verbe qui est là et qui signifie authentifier, donner une marque d'authenticité à ce qu'il dit, à ce qu'il est en train d'enseigner. Quelle est cette authentification? Que concerne l'authentification de l'action de l'Esprit de Christ? Eh bien, le texte nous le permet de le voir. Si nous regardons d'un peu plus près, voici ce que nous pouvons donc retenir. Dans ce chapitre, dans ces versets que nous avons vus, donc, il a testé, voilà le verbe, il a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il authentifiait ce qu'il était en train de faire connaître à ces hommes qui devaient parler de la part de Dieu. Le salut était une promesse qui s'accomplirait au travers d'un fait absolument inouï et dans l'esprit du peuple choisi, inacceptable. Je crois qu'il faut se souvenir de cet aspect des choses. Dans le caractère d'un Messie souffrant qui serait par la suite glorifié. Il y a là la notion de la souffrance de Christ et de la gloire qui s'en suivrait. Au premier abord, il s'agit de cela. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette affaire. C'est là le diptyque divin. Souffrance, gloire. La souffrance est en première. Le peuple de l'Alliance, de ce diptyque, n'a retenu que le deuxième volet. Il a toujours caressé l'idée d'un Messie puissant, d'un Messie glorieux, d'un Messie qui entraînerait à sa suite le peuple choisi. Il n'a jamais voulu d'un Messie souffrant. Tant et si bien que je le sais par quelqu'un qui est de la nation d'Israël, Ésaïe 53 est un texte qui est peu lu, et quand il est lu, il est appliqué à Israël. On ne l'appliquera pas à celui auquel il s'applique, mais au peuple lui-même. C'est le peuple dans son entièreté qui est représenté comme cette plante desséchée, etc. Or, nous savons très bien que c'est là une des descriptions les plus saisissantes et les plus justes du Messie en croix. Les prophètes ont voulu sonder ces choses. Mais, fait curieux, si vous regardez le texte, qu'ont-ils voulu sonder ? Je ne sais si vous avez prêté attention à cela, mais il est question de leurs recherches, de leurs investigations, donc d'un travail sérieux, d'un travail qui se poursuit, car là encore, un des verbes est au passé composé, il est au fait accompli, mais l'autre est encore au participe présent, qui montre une action qui est soutenue. Qu'ont-ils cherché à sonder ? Ils ont voulu sonder le quand et le comment. Pas le moyen de parvenir au salut, mais ce qui les a troublés, ce qui les a intéressés, ce qui les a titillés, excusez-moi l'expression, mais elle n'a rien d'anormal, c'est de savoir quand et comment cela se ferait. Ce n'est pas la notion du Messie souffrant, dont les souffrances sont suivies de gloire, mais c'est vouloir à tout prix connaître la période et les circonstances où ça se manifesterait. Bizarre. Bizarre comme nous pourrions appliquer cela à notre époque, mais cela à l'époque même de la race humaine. Car qu'est-ce qui préoccupe beaucoup les gens concernant le retour de Jésus-Christ ? Le moment et le comment. C'est tout. Or, ce qui prime, ce n'est ni le moment, ni le comment, c'est le fait qu'il vient et que je dois être prêt. Peu importe les circonstances, quand bien même nous connaîtrions mieux les circonstances comme certains le prétendent, ils disent qu'ils seraient plus à même de se préparer, ça c'est pour mettre un étouffoir sur une curiosité malsaine. Ce n'est pas une préparation meilleure que l'on recherche. C'est le désir de percer l'avenir et d'écrire l'histoire d'avance. Mais ces hommes-là se sont appliqués avec beaucoup de sérieux pour connaître les temps et les circonstances. Mais ce qui comptait le plus, c'était la venue du Messie souffrant et glorifié. C'était cela le message du salut. C'est à ce prix-là que le salut serait accessible. Peu importait les circonstances de sa réalisation. Il est vrai que Dieu a choisi les meilleures circonstances, le moment le plus favorable. Et je ne vais pas tout reprendre, mais on peut dire très simplement qu'effectivement, il n'y a pas eu dans l'histoire de l'humanité de moment plus favorable qu'au moment où régnait dans tout le bassin méditerranéen et bien au-delà la Pax Romana, ce moment où l'Empire romain était unifié, était extrêmement vaste, avait créé les voies de communication nécessaires, était unifié par la langue qui était le grec, parlé à l'époque alors que l'Empire était italien, parlait donc italien, pas l'italien, mais c'est tout comme. Voilà que le nom de la langue m'étonne, c'est une langue morte, c'est vrai, le latin. Eh bien, dans ces circonstances-là, l'Évangile a pu, en quelques décennies, une décennie c'est 10 ans, arriver jusqu'aux frontières de l'Écosse. Voyez cela, à partir de Jérusalem. Pratiquement tout le bassin méditerranéen a été contacté. Et vers l'intérieur des terres, et vers l'est également, vers l'Orient, l'Évangile lui-même s'est répandu. C'était le jour, le moment favorable, au temps marqué. Le Fils est venu, né d'une femme, né sous la loi, etc. Galates 4:4. Ainsi, nous allons nous arrêter un petit peu plus à ce que j'ai introduit tout à l'heure au premier abord. Au premier abord, en regardant le texte, nous avons l'impression qu'il s'agit bien ici des souffrances du Christ et de la gloire qu'il suivrait. Pourtant, à y regarder de plus près, il faut pour cela, bien sûr, aller faire un tour du côté de l'actu grec. À y regarder du plus près, il y a une autre lecture possible. La première, la plus directe, est bien celle-là qui concerne les souffrances de Christ. Mais très vite, on se heurte à un problème. Si on prend cette lecture directe, simple, on se heurte à un problème, en grec, pas en français, en grec. Pour la simple et bonne raison que le mot gloire n'est pas au singulier. Il est question des gloires, les gloires qui suivraient. Il y a donc quelque chose d'autre derrière cette expression. Il ne peut pas s'agir seulement de la personne du Christ. Et la traduction les gloires, je ne l'ai trouvée que dans deux versions de celles que j'ai, parmi celles que j'ai consultées. C'est la Darby, qui traduit par les gloires, et la traduction du Nouveau Testament, le Pacte Neuf de Chouraqui, traduisent les gloires, tous les deux. Mais autrement, la Tob et les autres traduisent la gloire qui s'ensuivrait. La première lecture est, disons, dictée parce que la préposition qui est utilisée ici est considérée comme présentant la chose comme une fin en soi. Donc c'est bien en rapport, ce serait bien en rapport avec les souffrances destinées au Christ. Mais la préposition utilisée peut aussi avoir un sens de relation. Elle ne s'applique pas seulement à la personne concernée, mais éventuellement à ceux qui sont en relation avec elle. Tant et si bien que l'on pourrait ici alors comprendre que l'Esprit était en train d'éduquer les prophètes pour qu'ils délivrent leur message, pour annoncer les souffrances du Christ et du peuple qui s'associerait à lui, et des gloires qui accompagneraient, qui couronneraient ces souffrances, car il s'agirait de la gloire du Christ lui-même, mais de la gloire aussi de ceux qui lui ont emboîté le pas. Il y a donc là quelque chose qui, en même temps, s'harmoniserait avec la situation des lecteurs de l'apôtre Pierre. Car il passait par des difficultés, il passait par des problèmes lourds à supporter. Ils étaient en butte à la persécution. Donc, apparemment, la révélation qu'auraient dû sonder les prophètes était celle-là, et pas seulement de s'inquiéter des jours, des moments, et des comment, du quand et du comment la chose se produirait. Ils auraient dû être même encore plus motivés dans la chose parce qu'il leur a bien été indiqué qu'ils étaient les serviteurs, qu'ils servaient cette cause, pas pour eux, mais pour d'autres. C'est impressionnant cela aussi. Le texte le précise bien. Ils ont appris, le Seigneur leur a fait comprendre qu'ils étaient au service, car le mot est utilisé, qui est utilisé est un mot qui vient, dont la racine est diakona, diakonein, service. Eh bien, ils étaient au service de ce message qui n'était pas pour eux, mais pour un autre peuple, pour d'autres hommes, et d'autres hommes dans le lointain. Cela aurait dû peut-être encore plus les inspirer dans un sens différent de celui auquel ils s'étaient arrêtés. Ainsi, ce salut, objet donc de l'investigation des prophètes, objet du désir des anges. Nous sommes ici surpris que les anges, que les créatures célestes, les messagers célestes se préoccupent de cette affaire. Pourtant, nous n'aurions pu prendre d'autres passages qui parlent de la relation des anges avec le peuple de Dieu, mais nous n'avons guère la possibilité, le loisir de le faire. Il est dit ici que les anges désirent se pencher sur ce salut. Le texte dit plonger leur regard. Le mot n'est pas dans le texte. Le texte exact, c'est qui désire se pencher sur ce salut. Les prophètes l'ont fait. Les anges le font. Je ne sais pas si vous faites la différence. Les prophètes, on en a parlé au passé. Les anges, Pierre, en parle au présent. C'est pour cela que je dis, les prophètes s'y sont intéressés. Il est vrai que les prophètes sont morts, donc c'est fini. Les anges ne sont pas morts. Et les anges continuent à désirer la chose. Alors, de deux solutions, il n'y a que deux solutions possibles. Ou bien, comme les prophètes, leur désir est inassouvi. Parce que, comme les prophètes, en tant que créatures, ils attendraient l'accomplissement final de l'œuvre de Dieu pour admirer le résultat au bout de la chose. C'est une des interprétations. Donc les anges restent sur leur faim au même titre que les prophètes. Pour d'autres, c'est différent. Ils considèrent que l'œuvre étant accomplie, les anges ne regardent pas quelque chose en cours de réalisation, puisque c'est accompli. Et si la chose est accomplie, alors ce désir sans cesse renouvelé, parce que manifester au présent signifierait simplement que, ébloui par le côté absolument fantastique de l'œuvre, la contemplation génère un désir de contemplation, le multiplie et le renouvelle de telle façon qu'il reste inassouvi, bien que trouvant déjà la réponse à son attente. Et je pense, j'opterai pour cela, parce que cela s'inscrirait aussi dans la découverte que nous allons faire nous-mêmes de l'œuvre de la grâce, lorsque nous allons la mesurer, si j'ose dire, dans toute sa splendeur. Serons-nous satisfaits et blasés? C'est impensable. Je pense que l'intérêt, l'émerveillement produira un émerveillement croissant, un émerveillement sans cesse renouvelé par la beauté elle-même, par la grandeur de l'œuvre entreprise. Et je serais plutôt porté à croire à ce genre de lecture de ce texte. Tout cela concerne la jouissance du don de la grâce, la jouissance du salut accordé au peuple nouveau. J'aimerais m'arrêter quelques instants à ce peuple-là. Quel est-il? Il est le peuple du maintenant. Le texte a cet adverbe ici, vous le retrouvez. J'étais trop haut, pardon. Vous le retrouvez dans la lecture que nous avons faite à ceux qui maintenant ont reçu l'évangile, n'est-ce pas, qui leur a été annoncé. Le peuple du maintenant. Le peuple qui naît au moment où tout est accompli. Le peuple qui surgit du néant parce qu'il reçoit la grâce qui lui est faite d'être généré de nouveau pour le salut. Et voici que ce peuple-là jouit de ce qui a été l'objet du désir, de la connaissance de ceux qui ont précédé, qui est l'objet du désir des anges. C'est ce que le peuple d'aujourd'hui est en mesure de connaître, de vivre, d'expérimenter. Bien-aimé, peut-être en prenant davantage la mesure de ce qu'est ce salut. Je n'ai peut-être pas réussi à vous faire prendre une meilleure mesure de ce salut, bien que je m'y sois arrêté à plusieurs reprises au cours des versets qui ont précédé. Mais là encore, l'intérêt des hommes de l'Ancienne Alliance, l'intérêt des créatures célestes devrait peut-être nous motiver dans la recherche d'une meilleure connaissance de ce salut. Car ce salut nous concerne. C'est nous qui sommes en jeu. C'est notre affaire. C'est la vôtre et c'est la mienne. Et c'est à chacun de nous d'avoir à gérer cela avec cette question qui ici se justifie pleinement. Interrogation du texte biblique. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? L'expression que nous trouvons dans Hébreux 2, 3. Interrogation qui reste sans réponse. Car la réponse, on la connaît. On ne peut pas échapper si on néglige le salut. Et c'est pourquoi le peuple du maintenant ne le devient que lorsqu'il entre, si j'ose dire, dans l'aujourd'hui de Dieu, lorsque Dieu nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la grâce, nous sommes appelés à y entrer de plein pied pour pouvoir entrer dans ce peuple du maintenant, dont il a été parlé il n'y a pas très longtemps, sauf erreur de ma part, par un de nos visiteurs, Philippe, qui parlait de maintenant et autrefois. Il y a pour le peuple de Dieu ce maintenant fait de la présence de Dieu par opposition à l'autre fois où l'on était sans Dieu. Aujourd'hui, il nous faut répondre. Alors j'aimerais quand même, et c'est un peu désagréable et c'est un peu délicat, j'aimerais quand même dire que chacun de nous doit s'efforcer à entrer. S'efforcer à entrer et le témoigner par l'obéissance de la foi. Par cette réponse à Jésus-Christ qui est aussi une réponse donnée aux hommes, une affirmation donnée parmi les hommes. Au plan biblique, nous ne pouvons pas en faire l'économie. Nous ne pouvons pas. Nous pouvons vivre, bien sûr, comme si nous n'étions pas concernés par la chose. Mais au final, il sera bien établi que nous étions concernés. Alors, peut-on sans cesse repousser? Je ne le crois pas. Je crois vraiment que nous devons, comme le dit l'apôtre, nous efforcer d'entrer dans le repos de la foi, le repos du salut, le repos de Dieu, de telle façon qu'aucun de nous ne paraisse être arrivé trop tard. Veuillez m'excuser, je ne peux pas te dire un autre langage que celui-là. Que Dieu nous donne de l'entendre, comme dit le texte biblique, pour pouvoir persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous a été promis. Amen.